Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Sébastien Flacourt.
Contrairement au dicton, le temps n'est pas de l'argent, c'est la vie même. Dans la vie quotidienne, on se laisse épuiser par le nombre de choses qu'on croit devoir faire ou qu'on pourrait faire. Quand on prend son temps, quand on limite le nombre d'options au maximum, on goûte pleinement à l'existence. Cette citation n'est pas de moi, mais de Mike Horn, cet explorateur et aventurier bien connu et dont le livre se trouve en rayon, côte à côte, avec celui écrit par Louis de Bouvier, bien sûr, « Traverser l'Asie à vélo ». Ce livre de cycliste paru en mars 2024 aux éditions Akinome. Nous en avons l'auteur aujourd'hui en studio. Bonjour Louis.
Bonjour Sébastien.
Et puis nous avons aussi votre acolyte Louis, en la présence d'Alban Dupelot. Alban, on vous voit sur la couverture en train de déchiffrer une carte. Merci Alban d'avoir accepté de l'accompagner une énième fois.
Bonjour Sébastien.
Nos deux invités sont eux aussi des aventuriers partis avec peu de choses vivre l'existence à vélo en Asie. Alors restez avec nous pour suivre leurs péripéties. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Notre-Dame et vous écoutez Orient Extrême. Et nous retrouvons Louis Ducré, l'autre Louis. Avec vous, nous commençons cette émission comme chaque semaine par un peu d'actualité asiatique. Et vous nous faites commencer au Bangladesh avec une campagne de carême financée par les pauvres pour les pauvres.
Tous les ans, l'église bangladaise organise une campagne de carême afin de venir en aide aux plus pauvres. Cette année, Caritas Bangladesh propose une campagne financée par les pauvres et pour les pauvres, en collaboration avec des volontaires catholiques, mais aussi musulmans, hindous, bouddhistes. Pour Sébastien Rosario, directeur de l'organisation, c'est un projet unique qui dépend entièrement des donateurs locaux, dont les aides ne proviennent non pas de leur superflu, mais de leur nécessaire. La campagne de carême de Caritas Bangladesh est une initiative annuelle visant à venir en aide aux personnes défavorisées. Et cette année, elle adopte une approche unique en étant financée par la contribution des habitants locaux. Cette campagne, appelée Teg Osheba Abirhan, sacrifice et service, est le fruit d'une collaboration entre volontaires de différentes confessions religieuses, notamment chrétiens, musulmans, hindous, bouddhistes. Depuis son lancement en 1980, cette campagne s'est efforcée de soutenir les plus démunis en offrant une aide éducative, médicale, financière à ceux qui en ont le plus besoin. Grâce aux contributions locales, cette campagne parvient à toucher un large éventail de personnes, indépendamment de leur religion ou de leur caste. Elle a permis à des centaines de personnes de recevoir une assistance vitale, comme en témoignent des récits poignants des bénéficiaires. L'initiative est saluée non seulement par la communauté chrétienne, mais aussi par les dirigeants religieux d'autres confessions, qui reconnaissent l'importance de la solidarité interreligieuse dans la lutte contre la pauvreté. En encourageant la participation active de la communauté locale et en favorisant l'inclusion de tous, quel que soit leur statut social ou religieux, cette campagne de carême incarne véritablement l'esprit de solidarité et de compassion envers les plus démunis.
Alors Louis, quittons sur notre petit vélo le Bangladesh pour aller vers l'ouest. Les évêques indiens organisent une journée de prière et de jeûne avant les élections nationales.
La conférence épiscopale indienne a décidé d'organiser une journée de prière et de jeûne le 22 mars, en vue des prochaines élections nationales et en réponse aux tensions croissantes à l'égard des chrétiens en Inde. Cette initiative vise à unir les fidèles pour intercéder en faveur du pays et de l'Église, alors que la polarisation religieuse et les incitations à la haine menacent la démocratie et la coexistence pacifique. Avec les élections générales prévues en avril et en mai, les Églises appellent à une action collective pour préserver les valeurs de pluralisme et de tolérance. Les évêques catholiques adoptent une position prudente face aux élections. Conscient des enjeux, alors que le parti pro-hindou, BJP de Narendra Modi, est considéré comme favori. Le BJP a promis un nationalisme hindou et a été critiqué pour avoir ignoré les intérêts des minorités religieuses, contribuant ainsi à une augmentation des violences antichrétiennes. Les communautés chrétiennes, bien que divisées sur leur approche politique, expriment des inquiétudes concernant la montée de l'extrémisme religieux et appelle à une action collective pour défendre les droits des minorités religieuses. Modi, cherchant un troisième mandat, espère une victoire écrasante pour renforcer sa position et poursuivre son programme en accord avec l'idéologie du BJP. Cependant, la communauté chrétienne reste sur ses gardes, certains évêques soutenant ouvertement le BJP dans certaines régions, tandis que d'autres adoptent une position plus critique, soulignant les défis auxquels sont confrontées les minorités religieuses en Inde.
Merci Louis Ducré. Et nous retrouvons Louis de Bouvier, auteur d'un livre paru ce mois-ci, Traverser l'Asie à vélo, en compagnie d'Alban Dupeloux. Alors quelques statistiques pour commencer, 10 000 km à vélo, 36 kilos chacun en comptant vélo et bagages, 30 selfies acceptées en une minute, un braquage, un mariage et pas d'enterrement. Vous rentrez avec des choses à raconter. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Notre-Dame et vous écoutez Orient Extrême. Alors vous le dites, Louis, ça part d'un petit rien du tout, une envie de découvrir, une envie d'apprendre, une envie d'aventure et un consentement d'Alban pour me suivre dans cette idée farfelue. Ma première question sera, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir en voyage et rétrospectivement, d'où vous vient cette idée de traverser l'Asie à vélo ?
Donc une fois de plus, merci de nous recevoir ici à Radio Notre-Dame. Pour ma part, c'est vrai que j'avais toujours rêvé de vivre une aventure un peu folle, parce que j'avais, quand j'étais petit, assisté à une conférence d'un cousin qui avait traversé, lui, l'Amérique, donc dans les années 2000. Et dès que j'ai pu avoir l'opportunité de vivre ce type d'expérience, j'ai sauté sur l'occasion, et c'est là où j'ai demandé à Alban de me suivre, qui, dans un premier temps... a gentiment refusé, ce qu'il préférait améliorer son anglais sur la possibilité d'une année de césure. Et puis finalement, il a accepté de me suivre pour partager cette aventure un peu folle.
En effet, en fait, je m'étais dit, c'est la seule occasion, ou c'est plutôt une occasion qui se présente pour pouvoir réaliser ce genre d'aventure. Et Louis et moi, on avait fait du scoutisme du coup pendant notre jeunesse. Et on s'est dit, c'est un peu une continuité. On avait une soif d'aventure. Donc voilà, sortir un peu de notre confort, notre quotidien, et aller à la rencontre aussi des personnes d'une autre culture et d'autres environs.
Votre but était la rencontre, ou est-ce que vous aviez un autre but très précis ?
En réalité, on avait trois objectifs. Un qui est évidemment sportif, donc de parcourir au départ 7500 km. Vu qu'on est de très mauvais topographes, finalement c'est 10 000 km qu'on a parcouru. On avait un deuxième objectif qui était culturel, en étant en immersion dans chaque culture qu'on visite. Cependant, c'est assez compliqué parce que quand on voyage à vélo et que chaque jour on pédale, c'est compliqué d'instaurer un lien avec la population, puisque en fait chaque soir on dort chez des personnes différentes. C'est pour ça donc qu'on a dormi chaque soir chez l'habitant pour avoir ce contact avec l'habitant. Donc c'était une règle qu'on s'imposait, dormir chaque soir chez l'habitant et ne surtout pas dormir à l'hôtel pour avoir un lien avec les populations locales. Et le troisième objectif du coup était solidaire, puisque notre action était en faveur d'une ONG qui s'appelle Enfants du Mékong, ou plutôt en fait directement pour des enfants défavorisés via une ONG, parce que en fait on a sur place communiqué pour cette ONG via une marque de vêtements que j'ai créée il y a quelques années qui s'appelle La Grosse Bécasse, et donc on a pu communiquer sur des réseaux sociaux qui avaient un certain nombre d'abonnés. Et par ailleurs, on leur a aussi reversé de l'argent via la vente des sweatshirts que je vendais sur mon site web en France, parce que ma marque continuait de tourner lorsque Alban et moi étions en Asie.
C'est un cercle vertueux, chers auditeurs. Vous trouverez tous les détails du voyage dans ce livre, Traverser l'Asie à vélo, paru en mars 2024 aux éditions Akinome. Et j'aimerais, si vous voulez bien, Alban et Louis, que vous nous fassiez un petit descriptif de votre itinéraire.
On est parti avec nos vélos en avion. On a atterri à New Delhi. Et depuis New Delhi, on est parti en direction de Calcutta. Là, dans ce pays-là, l'objectif, c'était de découvrir une autre culture. Une culture vraiment opposée à celle qu'on peut avoir en Europe. Donc c'était vraiment le plongeon vraiment dans l'inconnu. Ensuite, on est passé en Birmanie, où là, on a commencé à rencontrer les premiers centres enfants du Mékong. Et en Birmanie, on contactait enfants du Mékong pour savoir où étaient nos points de chute dans chacun des pays. Et du coup, après, on est passé au Laos, où là, on a rencontré pas mal de volontaires. Et il y avait le Cambodge aussi, où là c'était très riche. Là on a rencontré d'autres associations, on avait pu rencontrer PSE, pas mal de volontaires des MEP. Et après voilà, on a été au Vietnam et on a terminé aux Philippines, où le dernier centre enfant du Mékong nous attendait pour pouvoir concrétiser notre voyage.
Ce voyage donc vous l'avez fait en 2018, vous viviez avec 150 euros par mois. Et j'ai cette phrase donc de Mike Horn que je citais en introduction. Quand on prend son temps, quand on limite le nombre d'options au maximum, on goûte pleinement à l'existence. Qu'est-ce que vous évoque cette phrase ?
Alors je vais commencer parce que je pense qu'on a tous les deux des éléments de réponse à apporter. Ce que je trouve, ce que j'ai trouvé intéressant, et du coup peut-être que c'est une des dernières questions, mais en finissant ce voyage et en revenant en France, moi ce qui m'a marqué c'est l'accueil des habitants. Et en fait, on a cherché un petit peu à comprendre pourquoi on a été accueillis si facilement, hein, parce que du coup, sur 6 mois, il y a eu seulement 6 jours où on a sorti la tente. Tous les autres jours, on a été accueillis par l'habitant. Et moi, j'en suis arrivé à une conclusion assez simple, mais je pense qu'Alban partage, c'est que les personnes de ces pays-là, en tout cas celles qu'on a rencontrées et qui nous ont hébergées, sont des personnes qui vivent beaucoup plus au jour le jour que nous en Occident, où on a tendance à beaucoup planifier, et moi le premier. Et quand on planifie, en fait, c'est très dur de se libérer du temps pour accueillir et du temps pour les autres. Et en fait, c'est vrai que quand on se laisse un petit peu porter par sa journée, on a plus tendance, je pense, à laisser place à l'imprévu.
Et alors moi aussi, j'avais aussi pensé à... Ça me faisait... Enfin, il y a un côté où on laisse un peu le temps pour contempler aussi. Contempler justement les choses qu'on ne prend pas le temps de... Sur lesquelles on... voilà, les choses où on ne prend pas le temps de s'arrêter dans la vie de tous les jours, dans la vie qui va assez rapidement dans notre société. Et également, il y a aussi cette place... arrêter d'avoir le choix à 36 000 choses, occasions qu'on peut nous proposer. Et voilà, ce vivre dans la simplicité et la pauvreté nous permet justement de pouvoir avoir un choix qui est tout fait et qui est même magnifique, et prendre le temps justement d'aimer cette simplicité.
Chers auditeurs, vous avez entendu Louis et Alban, nos aventuriers à vélo. Alors prenons le temps de nous arrêter un instant et écoutons À bicyclette de Yves Montand.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Et nous retrouvons retrouverons Louis de Bouvier et Alban du Pelou, les deux personnages de ce livre Traverser l'Asie à vélo. On y parle de rencontres avec des locaux, mais aussi avec des animaux. Est-ce que vous voulez bien nous partager quelques anecdotes? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu peur?
On n'en a pas eu tant que ça, mais on a eu notamment un épisode assez houleux en Birmanie, où durant notre périple à vélo sur une journée somme toute banale, il y a une personne qui s'est dit policier qui nous a arrêté, qui nous a demandé de rebrousser chemin parce que les chemins étant apparemment trop dangereux. Pour notre part, ça ne nous a pas inquiété plus que ça, parce que ça nous était peut-être arrivé plusieurs fois qu'on soit sur des sentiers non battus. Donc on a refusé. ça a été une discussion qui a duré une demi-heure. On a pu repartir. On a roulé 10 km et 10 km plus loin, ce même policier est revenu à la charge. Le policier qui n'était pas habillé en policier, mais qui était pieds nus et en chapeau de paille. Il est revenu avec une troupe de 10 personnes qui nous ont redemandé la même chose. On s'est dit, bon, on a réussi à dire non une fois, du coup, on va dire non une deuxième fois. Peut-être que ça va fonctionner. On a dit non une deuxième fois d'une façon assez ferme, ça a duré un peu plus de temps. Il a fallu un peu plus négocier, mais ça a marché. On a pu repartir à vélo sur une autre dizaine de kilomètres. Et là, lorsqu'on s'est posé dans une gargote pour manger un poulet, on a à nouveau trois personnes qui se sont dit policiers, qui étaient vraiment en chapeau de paille, en veston de paille, qui nous ont demandé de nous arrêter d'une façon assez ferme. Là, on en avait un peu marre, on leur a dit « s'il vous plaît, juste laissez-nous manger notre poulet » et on en rediscute après, ce qui a laissé place à un moment assez étrange parce qu'on était en train de manger notre poulet avec trois policiers en face de nous qui attendaient qu'une chose, c'était qu'on déguerpisse. Et suite au déjeuner, on est donc allé les voir, on s'est dit « on a refusé deux fois et deux fois ça a marché ». Vous connaissez le dicton « jamais 203 », on a essayé une troisième fois, ça n'a pas du tout marché parce que l'homme qui était le plus fort donc, des trois hommes, l'homme au chapeau de paille a demandé à ce qu'on sorte les menottes et à nous menotter. Et en fait, je crois qu'Alban, toi, t'avais vu ces menottes que j'avais pas du tout vu.
J'ai vu le geste et directement, j'ai dit à Louis, il faut qu'on se calme là tout de suite. Là.
C'est ça. Et moi, j'ai continué un peu à m'énerver parce que dans la folie de l'événement, je m'en rendais pas trop compte. Et on voulait surtout en plus arriver à notre frontière birmane parce qu'on avait nos échéances de visa. Un des trois hommes a sorti un Colt, mais vraiment un Colt comme dans Lucky Luke, quoi, argenté, un Colt super beau avec une roulette.
C'était le bonhomme au chapeau de paille.
Ça
nous a marqué, ça.
Qui l'a pointé sur notre front. Et là, je crois que moi, j'ai pris conscience un petit peu de ce qu'avait déjà pris conscience Alban 30 secondes auparavant. Et on a rebroussé chemin. Ils nous ont suivis sur 10 km avec des scooters pour être sûr qu'on quitte vraiment leur territoire. Et ils nous ont installés sur un radeau au bord du fleuve pour qu'on passe le fleuve et afin qu'ils soient sûrs qu'on ne soit plus de leur côté de la rive.
Louis Ducré.
Louis et Alban, vous avez parlé tout à l'heure de ce que vous avez découvert là-bas, notamment le rapport au temps, à la rencontre, à l'imprévu qui était différente. On dit que les voyages forment la jeunesse. Qu'est-ce que vous avez rapporté de ce voyage? Est-ce que vous en avez rapporté une sagesse de vie?
Alors oui, en effet, ça nous a permis de comprendre que... on avait beau planifier plein de choses, à essayer de suivre le chemin critique qu'on s'était fixé. Et en fait, soit on voyait que on suivait ce chemin critique, mais on laissait pas place à cette spontanéité qui était vraiment belle. Soit en fait, en laissant justement les choses se faire, il y a une certaine souplesse et une certaine légèreté qui arrive dans le voyage et qui était vraiment agréable et beau. Et même entre nous, ça nous permettait aussi de laisser les plans B arriver dans notre voyage.
Mais du coup, une fois revenu en France, est-ce que vous avez transformé votre façon de vivre? Ou est-ce que vous êtes revenu sur un mode plus occidental, c'est-à-dire très organisé?
Si. Par exemple, moi personnellement, un des points aussi qui est assez important, c'est les accueils qu'on a reçus. Alors qu'on n'était pas prévu au dîner du soir chez les habitants, nous a vraiment permis de comprendre que fallait être prêt à pouvoir accueillir n'importe quelle personne et laisser justement cette place un petit peu à tout invité parce que déjà ça change notre quotidien et ça fait du bien de rencontrer du monde et on nous a tellement donné cette occasion de bénéficier de cet accueil qui était beau et qui était le fruit de beaux échanges. On s'est dit, moi personnellement, c'était une des choses qui était important, c'était pouvoir accueillir les personnes chez moi.
Louis de Bouvier.
Moi, je voudrais juste rebondir sur le propos d'Alban, parce que ce que ne dit pas Alban, c'est qu'il était en colocation pendant un petit moment avec des sans-abri. Et je pense que ça a un lien quand même avec, avec ce voyage. Et pour ma part, je suis peut-être moins irréprochable qu'Alban, parce que j'ai tiré un petit peu la même conclusion qu'Alban sur l'accueil qu'on a vécu. Et ce qui est sûr, c'est que je ne rentre pas le même, même si on s'était fixé une règle aussi tous les deux, c'était de ne pas revenir en rejetant notre société française. Au contraire, on est revenu et on s'est dit que la France, c'était quand même un très beau pays, même si on a vu de très beaux paysages en Asie, ainsi que la France, c'est quand même superbe par la variété de pays qu'on a dans un si petit espace. Mais le but n'était pas de revenir et de rejeter ce qu'on connaît en France, au contraire. Et en revanche, pour l'accueil, je sais que si quelqu'un toque à ma porte, je réfléchirai plus intensément peut-être à l'accueillir. Ça ne m'était pas arrivé avant, ça ne m'est toujours pas arrivé depuis le voyage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me poserai la question et j'espère que je l'ouvrirai à la porte.
Dans les rencontres et dans les amitiés que vous avez construites pendant votre voyage, il y a un troisième compagnon. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu plus, Alban ?
Alors oui, il y a une histoire, enfin une anecdote assez marrante et qui a même beaucoup interrogé les locaux. C'était un petit oiseau qui nous a suivis. C'était un ménate religieux, il me semble, qui nous a suivis. Et en fait, c'est plutôt, il a suivi Louis. Et un matin, Louis allait prendre sa douche. Et je le vois, donc il part. Et je le vois revenir avec un petit piaf qui le suit en sautillant derrière lui. Et là, on se dit, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? On a passé tout notre petit déjeuner avec lui. Et après, bah, en fait, il nous a suivis pendant 50, 60 kilomètres. Enfin, toute la journée. On a même dormi avec lui. Et le matin, il est parti. Donc c'était vraiment une super belle rencontre. Ça nous a vraiment égayé notre voyage. Après, je sais pas comment Louis l'a vécu, mais enfin, Louis l'avait sur l'épaule pendant toute la journée, donc plutôt différemment, je pense.
Ouais, c'est un oiseau qui volait au-dessus de nous deux sur 60 km. C'était assez improbable. Et comme dit Alban, plus ce qui est marrant, c'est que ça s'appelle c'est une espèce qui s'appelle le ménate religieux. On l'a rencontré, ce ménate religieux, dans une pagode bouddhiste. Parce que j'ai écrit dans le livre, je suis assez fier de cette phrase. Il a quitté son habit de religieux pour nous suivre. Et c'était sympa. Et en fait, c'est marrant parce qu'on s'est imaginé tout de suite comment on va faire pour passer la frontière cambodgienne avec lui. Est-ce qu'il va pouvoir passer avec nous? Bon, finalement,
il est parti
au bout d'une journée. En revanche, c'est assez drôle parce qu'il a fait exactement. Il a passé exactement 24 heures avec nous. Il est arrivé au petit déjeuner une journée et il est reparti au petit déjeuner le lendemain. Donc on a eu le temps de profiter de lui 24 heures pile, donc c'était un moment assez hors du temps.
Il y a des religieuses qui, ça c'est marrant pour l'anecdote, du coup on raconte l'histoire à des religieuses et tout de suite elles nous disent mais c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui est venu descendre sur vous pendant 24 heures et vous redonner la force pour la suite.
Et du coup votre discernement c'est quoi? C'est l'Esprit Saint ou pas?
ça a été une force en vrai, ça nous a vraiment... Franchement, c'est une expérience assez extraordinaire et presque surnaturelle. Donc, si c'est l'Esprit Saint, c'était magnifique. Mais
j'imagine que dans ce voyage qui a duré un certain temps, il y a eu aussi des moments de découragement. Quelles ont été vos ressources pour continuer à avancer quand c'était difficile?
Moi, je dirais sûrement que c'était l'autre, parce qu'on était deux dans ce voyage. Et c'est quand même particulier de partir à deux et de vivre. On a vécu 183 jours l'un avec l'autre, à toquer chaque soir chez l'habitant, ce qui était d'ailleurs plus sportif, je trouvais, que de faire du vélo, parce que chaque soir, il faut un peu se sortir de sa zone de confort pour aller toquer à un village et dire « Excusez-moi, en langage des signes, est-ce qu'on peut partager un repas avec vous, voire dormir chez vous ?» Mais du coup, je pense que c'est l'autre, ouais, parce que quand il y a quelque chose, un moment qui ne va pas ou un découragement, on est deux, on n'est pas tout seul. Et du coup, l'autre, c'est aussi un moyen, ce n'est pas le bon terme, mais d'échanger et de pouvoir, peut-être se conforter sur certaines positions.
Louis de Bouvier, en une phrase, votre voyage s'est passé en 2018 et vous écrivez maintenant, en 2024. Qu'est-ce qui vous pousse à raconter ?
Ce voyage, on l'a très peu raconté. Pour ma part, moi, je l'ai en effet très peu raconté, notamment à ma famille. Et je me suis dit que 5 ans après, hein, le temps de digérer, je pense, toutes les informations, qu'il serait bon d'en parler. Parce qu'en fait, on a vécu tellement de choses extraordinaires, on en a vécu tellement que c'est devenu banal. Parce qu'un événement banal, c'est quand il se reproduit plusieurs fois. Ben là, ça s'est reproduit plusieurs fois, tous ces moments extraordinaires. Donc c'est devenu banal, donc j'en ai pas parlé. Et en fait, il y a un an et demi, je me suis rappelé d'un moment où on a dormi dans une prison, dans un cachot indien. Et je me suis dit, c'était quand même pas banal.
Merci Louis de Bouvier et Alban Dupelou d'être venus nous présenter votre voyage pas banal et ce livre que vous avez écrit et qui est paru ce mois-ci, Traverser l'Asie à vélo aux éditions Akinome, où vous retracez ce voyage plein de rencontres et d'humanité. Chers auditeurs, si vous rêvez de voyage, n'hésitez pas. Pour ma part, je reste en France pour vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.